SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here! Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le samedi 22 novembre 2025. Il est 13h sur la radio SBS et vous écoutez votre programme en français. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. On commence, comme tous les samedis, avec la rétrospective.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h... ou à tout moment, en ligne.
C'est arrivé un 22 novembre. Direction aujourd'hui l'année 1956 et les Jeux Olympiques de Melbourne qui s'ouvrent dans une ambiance électrique. Entre crise internationale et boycott, cette édition unique voit le politique s'inviter au cœur du sport. Malgré les tensions, des moments forts viendront marquer ces Jeux Olympiques, l'un des tournants de l'histoire de l'événement. Des explications avec Iléana Guillochon.
Le 22 novembre 1956 marque l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Melbourne, les premiers jamais organisés dans l'hémisphère sud. Mais derrière l'apparence de fête, cette édition va rapidement basculer, crise géopolitique, boycott et tensions internationales. Avant même que les Jeux de Melbourne ne commencent, deux crises secouent la planète. Suez au Moyen-Orient et Budapest en Hongrie. Deux foyers de tension, loin des pistes olympiques, pour le moment. En juillet 1956, l'Égypte nationalise le canal de Suez. Mécontente de cette décision, la France et le Royaume-Uni s'enflamment. Paris accuse également le Caire d'attiser la guerre d'Algérie. Avec Israël, il prépare alors une opération secrète. Israël attaque le Sinaï et derrière, Paris et Londres interviennent pour reprendre le canal. Le monde retient son souffle. À Suez, l'URSS menace même d'une riposte nucléaire contre la France, la Grande-Bretagne et Israël. Les États-Unis interviennent et forcent leurs alliés à faire marche arrière. La France et le Royaume-Uni se retireront plus tard, humiliés. Au même moment, en Europe de l'Est, la Hongrie se soulève après la déstalinisation. Le premier ministre réformateur, Imre Nagy, veut quitter le pacte de Varsovie. C'est une trahison pour les soviétiques et Moscou réagit aussitôt. Le 4 novembre, les chars soviétiques entrent dans Budapest. La répression est brutale et l'ONU reste impuissante.
The Australian Army Band provides the fanfare of 15 exciting days to come.
Ce 22 novembre 1956, les Jeux commencent enfin, à peine 3 semaines après le chaos diplomatique mondial. Ron Clark, jeune athlète australien, allume la flamme olympique au Melbourne Cricket Ground.
Now the sacred flame, lit in Greece, some 12,000 miles away, carried halfway around the world by teams of runners in relay.
Mais impossible d'échapper à la géopolitique, les boycotts tombent dès le départ. L'Égypte, l'Irak et le Liban refusent de participer pour protester contre l'occupation franco-anglaise du canal de Suez et contre la présence d'Israël aux Jeux. L'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse, cette dernière étant pourtant un pays neutre, boycottent pour dénoncer la répression soviétique en Hongrie. La Chine populaire décline également l'invitation en raison de la présence de Taïwan. C'est la première grande vague de boycott politique dans l'histoire moderne des Jeux. Mais la politique s'invite même dans les bassins. La demi-finale de water-polo oppose la Hongrie à l'URSS et vire à l'affrontement. Le joueur soviétique Valentin Prokopov assène un coup de tête au Hongrois Ervin Zador. L'eau se teinte de rouge, la police australienne doit intervenir pour protéger les Soviétiques et la Hongrie décroche l'or, l'URSS le bronze. Au cœur des tensions, les Jeux de Melbourne se distinguent. Une édition unique portée par de nouvelles technologies. Pour la première fois, la télévision s'installe vraiment dans les Jeux après un premier test durant les Jeux d'hiver quelques mois plus tôt. En direct, le monde découvre un moment inédit. Les deux Allemagnes qui défilent ensemble, sous un seul drapeau et un seul hymne, un vrai tour de force politique.
Only the magic of the Olympic Games could bring East and West Germans together under the same flag.
Exceptionnellement organisé en novembre pour des Jeux d'été, les sports équestres avaient déjà eu lieu plusieurs mois plus tôt, à Stockholm. La raison ? À cause d'une loi australienne qui imposait une longue quarantaine pour les animaux entrant sur le territoire. C'est le premier non-respect de l'unité du temps et du lieu, pourtant imposé par la charte olympique.
Number 13, Mimoun.
Mais la France se souvient surtout d'un homme, Alain Mimoun. Le 1er décembre 1956, à 35 ans, le caporal-chef né près d'Oran remporte le marathon sous une chaleur écrasante et devant 120 000 spectateurs.
Il est rentré dans le stade, c'est une bombe atomique. Ah 120 000 personnes. J'ai jamais vu un stade éclater comme ça. Hein.
Triple médaillé d'argent, toujours devancé par Émile Zatopek, il n'avait pourtant jamais couru de marathon avant cette course. Pourtant, il s'impose brillamment et c'est sur la ligne d'arrivée que Mimoun attend Zatopek, son rival de toujours mais aussi son ami, qui vient le féliciter. La veille, Mimoun apprenait la naissance de sa fille. Avec sa victoire, la France décroche alors sa 4e médaille d'or à Melbourne. À propos de sa carrière, il dira, je cite, « Je vois ma carrière comme un château, ma médaille d'argent de Londres en est la fondation ». Mes deux médailles d'argent d'Helsinki en sont les murs, ma médaille d'or de Melbourne, le toit. Une personnalité extraordinaire, Alain Mimoun sera d'ailleurs l'invité spécial de SBS French, où il revient avec humour sur des anecdotes de sa vie.
J'étais international, j'ai été champion de France à 47 ans, au marathon. À 47 ans, 10 ans après mon titre olympique, j'ai fait le même temps qu'à Melbourne.
Malgré les tensions politiques, les Jeux de Melbourne instaurent une tradition qui perdure. Pour la première fois, les athlètes défilent ensemble à la cérémonie de clôture, sans distinction de nationalité. Un symbole d'unité au cœur d'une édition unique.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
T'as jamais vu une femme. Oh, regarde sous mon sang là. Regarde.
C'était la chanteuse Clara Luciani sur les ondes de Radio SBS avec son titre La Grenade. On marque une très courte pause, messieurs, dames. On se retrouve dans un instant avec un nouvel épisode d'Europa Voice. Christophe Mallet et Nathanaël Bloch évoquent la situation de Nicolas Sarkozy. A tout de suite.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Europa Voice numéro 171. Je suis, comme à chaque épisode, Christophe Mallet, qui vous joint donc pour cet épisode avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On a un gros morceau aujourd'hui pour notre Europa Voice numéro 171. En deuxième partie de cet épisode, nous parlerons du deal ou non des avions et des rafales français pour l'Ukraine. Ce sera en deuxième partie de notre épisode. Mais là, tout d'abord, bien le plus gros des morceaux presque dans la politique française depuis un bon moment, l'affaire, l'histoire des affaires de Nicolas Sarkozy, ancien président français, donc le président Sarkozy, qui a donc aura passé 21 jours, 3 semaines en prison, qui est sorti récemment en appel. Nathanaël, expliquez-nous un petit peu les tenants et aboutissants de toute cette histoire, puisque c'est très, 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 très complexe.
Nicolas Sarkozy, Christophe, a obtenu effectivement 20 jours après son incarcération, sa remise en liberté dans une affaire où il a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le fameux dossier libyen. S'il a été libéré, le président Sarkozy, Christophe, il a tout de même été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès en appel. Et c'est là où c'est intéressant pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. On peut se demander pourquoi et comment c'est possible que le président français ait été libéré alors qu'il avait 5 ans de prison. C'est tout simplement du droit et rien que du droit. Alors, il y aura aussi un peu de politique, hein, on pourra en parler, mais en termes de droit, en fait, cette remise en liberté, Christophe, elle ne s'appuie pas sur les mêmes critères que ceux qui ont conduit à sa condamnation. Je vais le résumer pour nos auditeurs. Mais parce que le président, en fait, Sarkozy, a fait appel, les critères de sa remise en liberté ont été étudiés au vu de cet appel et non au vu de sa première condamnation. Ça, c'est pour le droit, en fait. C'est parce que le président Sarkozy a fait appel qu'il a été libéré au bout de 20 jours, mais qu'il reste tout de même, encore une fois, soumis à un contrôle judiciaire. Et alors, en fait, pourquoi est-ce que le président Sarkozy, au début, a été mis en prison ? Eh ben, c'est autant pour protéger la société, j'allais dire, que pour le protéger lui. C'est ce qui expliquait, en fait, de par la gravité exceptionnelle de ce qui s'est passé pendant cette affaire libyenne, mais aussi, encore une fois, parce que le président Sarkozy devait, en fait, être protégé parce qu'il était un accusé, j'allais dire, un peu différent des autres, non pas parce qu'il est président de la République, mais évidemment parce qu'il est plus médiatique. Et donc, tout ça, ça avait entraîné le fait qu'il a été incarcéré immédiatement. On en avait parlé, hein, est-ce que il y a une suspension, est-ce qu'on va attendre, etc. Mais le fait qu'il ait fait appel, en fait, on a remis, si vous voulez, dans la balance les critères, les mêmes critères, en fait. Et là, on a jugé que maintenant, il était apte à, encore une fois, être en dehors de l'institution pénitentiaire, mais toujours sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès en appel, avec d'ailleurs certaines conditions, notamment, Christophe, l'interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, chose qui avait fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours en France. Voilà.
Oui, si on parle justement, on s'attarde 30 secondes sur cette clause avec Gérald Darmanin. Et expliquez-nous pourquoi, parce qu'en fait Gérald Darmanin, donc ministre de la Justice dans le nouveau le gouvernement Lecornu numéro 2, il a occupé le poste sur la place Beauvau que Nicolas Sarkozy a occupé avant d'être président aussi. Donc du coup, il y a un lien entre les deux. On sait qu'il y a une forte relation entre les deux. Et Gérald Darmanin est allé rendre visite à la santé, donc à la prison de la santé, à son ami, on va dire entre guillemets, en tout cas au prisonnier Sarkozy. Et ça a fait couler beaucoup d'encre en France.
Alors ça a fait couler beaucoup d'encre pour une raison qui est assez compréhensible, ce qui est celle de l'indépendance de la justice et de la potentialité de porter atteinte en fait à l'indépendance de la justice si le garde des Sceaux, si vous voulez, se rend au chevet de son ancien mentor et lui exprime publiquement sa compassion, parce que en fait c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est Gérald Darmanin, peut-être pour nos auditeurs d'Europa Voice, d'SBS qui sont un peu moins dans la politique, Gérald Darmanin c'est effectivement le garde des Sceaux, le ministre de la Justice en France, mais c'est aussi celui qui a été formé, amené à la politique par Sarkozy. Donc il y a une relation aussi, j'allais dire, au-delà du côté professionnel, qui est très personnel entre les deux. Et donc ça, effectivement, ça a été beaucoup critiqué. Et l'idée, en fait, que Nicolas Sarkozy ne peut entrer en contact avec Gérald Darmanin, elle est double. D'abord, elle n'est pas isolée, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une série d'obligations qui s'appliquent à Nicolas Sarkozy pour limiter les risques de pression et de concertation avant son procès en appel. Donc, par exemple, il a interdiction de sortir du territoire, il a interdiction d'entrer en contact avec ses co-accusés et il a interdiction aussi, Nicolas Sarkozy, d'entrer en contact avec d'anciens responsables libyens. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, encore une fois, pour Gérald Darmanin, c'est vraiment, avant le procès en appel, de s'assurer que la justice soit indépendante. Et il n'a pas le droit non seulement d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, mais Nicolas Sarkozy n'a pas non plus le droit, Christophe, d'entrer en contact avec de hauts responsables de la justice en France. Encore une fois, Nicolas Sarkozy a la potentialité de le faire de par sa fonction. Et donc, c'est pour éviter toutes ces potentielles compromissions que ces listes d'interdiction maintenant s'appliquent à Nicolas Sarkozy une fois remis en liberté, mais sous contrôle judiciaire.
Et si on revient un petit peu en arrière sur le jugement, donc il a été jugé et écroué pour association de malfaiteurs. Tout ça, c'est autour du financement de sa campagne et autour d'un financement avec l'argent libyen. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de remue-ménage, on va dire, entre guillemets, autour de cette affaire. Il a été accusé, il a été désaccusé, entre guillemets, par le même personne qui l'avait accusé, qui le réaccuse une troisième fois, qui depuis est décédé. Enfin, c'est vraiment une sacrée nébuleuse, cette histoire.
En fait, cette histoire, alors déjà, il faut bien comprendre que c'est très difficile parce que ce procès-là, c'est le procès du financement de la campagne présidentielle de 2007. Mais il s'inscrit dans, j'allais dire, une histoire judiciaire assez exceptionnelle pour Nicolas Sarkozy ou d'autres affaires, notamment l'affaire L'Oréal, par exemple.
L'affaire Big Malion.
L'affaire Big Malion, toutes ces affaires-là ont lieu dans une période de temps finalement assez resserrée. Mais cette affaire, et ça c'est important de le rappeler, Nicolas Sarkozy, il avait été innocenté dans les autres affaires. Et dans cette affaire, ou en tout cas les procès sont encore en cours et il est donc considéré comme présumé innocent. Dans cette affaire-là, Nicolas Sarkozy, de quoi a-t-il été reconnu coupable, Christophe? Il a été reconnu coupable d'avoir laissé ses collaborateurs solliciter le dictateur libyen Muammar Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Donc c'est pas non plus Nicolas Sarkozy qui aurait lui-même, directement bénéficié de ces financements, mais c'est une association avec ses collaborateurs qu'il a laissé recevoir ces financements illégal de la part de Muammar Kadhafi. Et c'est pour ce point-là.
Mais la clé, désolé de vous interrompre, Nathanaël, la clé dans cette histoire, c'est que en France, dans le droit français, quand on n'a pas besoin de faire acte de corruption, le fait même de penser à faire de la corruption, on fait déjà de la corruption. Et ça, c'est ce qui a joué en la défaveur de Nicolas Sarkozy.
C'est ce qui a joué en la défaveur de Nicolas Sarkozy. Et c'est aussi, encore une fois, d'avoir, quand on dit d'avoir laissé ses collaborateurs bénéficier de ses relations, de ses financements, c'est d'avoir été au courant. Donc, c'est plus simplement que d'y avoir pensé. C'est, j'allais dire aussi, tribaliser un peu ça, de ne pas l'avoir arrêté et d'avoir laissé ses collaborateurs organiser cela en ayant connaissance, en tout cas d'un minimum d'informations pour être condamné par la justice en première instance. Et c'est ça ce qui s'est passé, c'est ça qu'on est en train de juger avec Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, je reviens sur cette question de la remise en liberté. En fait, puisque Nicolas Sarkozy a fait appel, on juge maintenant le prévenu et la gravité des faits, on le juge non pas dans le cadre de la demande de remise en liberté, encore une fois, mais dans le cadre de la détention provisoire. Parce qu'il a fait appel, donc il est toujours présumé innocent. Et donc, comme il est toujours présumé innocent, on se demande est-ce qu'il doit encore être en détention provisoire. Et c'est là où il y a cette acrobatie juridique, mais en fait, qui est prévue par le droit. Et ben, on se demande est-ce que le maintien en détention, donc la détention provisoire, est-ce que c'est l'unique moyen de garantir qu'il y a un procès équitable, etc., etc. Et donc, là, les juges se sont prononcés, se sont dit, bah non, en fait, Nicolas Sarkozy peut être mis en liberté. Ça nous permettra quand même de protéger les preuves, ça nous permettra d'empêcher les pressions, ça nous empêchera de prévenir une fuite, une récidive. Et à ça, on a sorti certaines conditions dont on a parlé, Christophe, il y a quelques instants. Non-contact avec la justice, non-contact avec l'éco-accusé, etc. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que on ne reproche pas quelque chose de différent à Nicolas Sarkozy. On estime juste que le fait d'être remis en liberté dans le cadre des critères qui ont prévalu pour la détention provisoire permettent quand même au procès d'avancer, j'allais dire, en accord et en ligne avec ce que la justice requiert. Donc, ça ne change pas sur le fond, ça change sur la forme.
Voilà, sûrement beaucoup plus sereinement, et c'est sûrement pour ça que ces choses ont été faites. Ce sera en tout cas une affaire à suivre. On se fera un plaisir de suivre cette histoire pour vous dans des prochains épisodes d'Europa Voice.
Tu le sais, dans la vie, on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. On n'est pas bien là, en vrai, qu'est-ce qu'on est bien.
Le duo Slimane et Vita avec cette chanson « Ça va, ça vient ». On vous propose à présent un voyage intime dans l'univers du réalisateur Claude Lelouch, raconté à travers un documentaire qui révèle l'homme derrière le mythe. Rencontre avec Élise Baudouin, c'est parti.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Eh bien, on a le plaisir aujourd'hui, sur le programme de Radio SBS en français, de recevoir Élise Baudouin. On va parler d'un homme, un très grand homme du cinéma français. Déjà, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bah, merci. Et puis là, on va parler d'un homme qu'on a eu, nous, d'ailleurs, à l'antenne, Claude Lelouch. Vous avez fait un film, un documentaire sur sa vie, mais Claude Lelouch, c'est La vie en mieux. C'est le titre du film. Il est présent au Festival du film juif de Melbourne. Parlez-nous de cet homme, parce que il a bercé un peu toute notre vie. Vous et moi, on est à peu près de la même génération, je suppose. Il a bercé toute notre vie, Claude Lelouch. C'est un monstre, un vrai monstre du cinéma.
Mais c'est vrai que Claude Lelouch, c'est un nom qui est presque, je dirais, quasi patrimonial. Même si on est dans la jeune génération et qu'on n'a pas vu ses films, c'est un nom qui a marqué l'histoire du cinéma. Et qui, effectivement, est un des cinéastes français les plus connus au monde. C'est une référence pour un certain nombre de cinéastes. C'est quelqu'un qui a inventé des façons de faire le cinéma. Je voyais récemment une vidéo de Quentin Tarantino qui se référait à Lelouch pour dire « Mais finalement, quand j'ai vu Le Voyou, je me suis dit qu'il y avait tout ce que j'ai mis ensuite dans Pulp Fiction, mais c'était 25 ans plus tôt. » Donc, Claude Lelouch, c'est un nom important dans l'histoire du cinéma. Et puis, c'est aussi, et moi, personnellement, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est surtout quelqu'un qui a une vie qui est presque aussi romanesque que ne le sont ses films.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'amour, c'est tellement au centre de son œuvre. C'est vraiment quelque chose qui a été indéniablement un sujet pour lui, à la fois dans sa vie personnelle, mais également dans sa vie cinématographique. On sait que il a eu beaucoup de ses compagnes qui ont été des actrices qui sont devenues ses compagnes. C'est ça, c'est une vie un peu romanesque, tumultueuse, mais sans jamais vraiment faire d'énormément de vagues. Ça a l'air d'être tout bien passé. Il a encore des actrices qui sont des anciennes compagnes qui jouent avec lui. Enfin, c'est un homme un peu spécial. Je ne sais pas comment il fait. Hein.
Alors, Claude Lelouch, alors, s'agissant de sa relation aux femmes, alors bon, oui, l'amour, c'est une thématique qui est présente évidemment dans son cinéma, mais finalement dans le cinéma de beaucoup de monde. Lui, la particularité, c'est que la vie et le cinéma, pour lui, il mélange tout, et effectivement, il a fait tourner à peu près toutes les femmes de sa vie dans ses films, ses enfants également. Mais en fait, Claude Lelouch, c'est quelqu'un qui se nourrit de tout ce qui peut lui arriver pour ensuite fantasmer à partir de ça des scènes au cinéma. Sa façon de regarder les gens, sa façon de regarder son entourage, elle est celle d'un observateur qui ensuite se demande ce qu'il va bien pouvoir en raconter sur grand écran. Alors effectivement, s'agissant de sa vie amoureuse, il a cette phrase assez malicieuse qui dit, bon, moi, il m'a expliqué qu'il n'a pas été célibataire depuis l'âge de 18 ans. Et il dit, bon, Je reconnais que j'ai fait ce qu'on appelle au cinéma des fondus enchaînés. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quand deux images se superposent. C'est-à-dire que, bon, bah, effectivement, Lelouch, il a eu des compagnes et des compagnes qui sont restées très longtemps, hein, dans sa vie. Mais comment dire, un homme qui tombe facilement amoureux et qui, par ailleurs, dit tout avec son cinéma. C'est avec un film qui va dire à une femme qu'il l'aime, c'est avec un film qui va lui dire qu'il la quitte, mais c'est aussi avec un film qui va essayer de demander pardon à ses enfants, d'avoir été un papa, comme il dit, un peu boiteux. C'est son langage, en fait, le cinéma.
Et comment on s'attaque à un sujet comme Claude Lelouch? Parce que c'est, je disais en intro, c'est un monstre du cinéma, donc on ne peut pas raconter une vie de Claude Lelouch. C'est des centaines de vies, c'est presque plusieurs vies par film. Ça doit être compliqué de se dire au départ, quand on est sur la feuille blanche du documentaire, de se dire, ok, par où j'attaque le monsieur, en fait?
Alors, ça fait un peu partie de l'aventure. Le point de départ de ce documentaire, c'est que Claude Lelouch était sur le point de tourner ce qu'il présentait comme étant son probable dernier film. C'est un film qui s'appelle Finalement, et il se disait que peut-être ce serait son dernier. Avec Cadmerade, exactement. En fait, l'idée de ce film, c'est Stéphane Boutsock, mon co-auteur, qui l'a eu en apprenant le commencement de ce tournage. De fil en aiguille, il en a parlé à un producteur qui lui aussi m'en a parlé et on s'est mis à réfléchir sur comment ce film dont il se disait qu'il pouvait être son testament cinématographique. Alors après, avec Claude Lelouch, il faut toujours se méfier. Il aime tellement le cinéma que je pense que même le jour où il aura un pied dans la tombe, il aura quand même une caméra au poing. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout son dernier film. Mais en tout cas, c'était un bon point de départ pour nous pour se demander comment on pouvait raconter la vie de cet homme, sa trajectoire, qui... C'est quand même quelqu'un qui a une vie à nul autre pareil. C'est un homme qui est né en 1937. C'est un jeune enfant juif qui va être en zone occupée en France, traqué par la Gestapo, ce qui va marquer durablement sa vie, mais surtout son cinéma. C'est un homme qui a vécu, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs vies, qui par ailleurs a tourné avec les plus grands acteurs français de sa génération. On s'est dit comment on fait pour raconter sa vie et il se trouve que il a été d'accord de nous ouvrir les portes de sa maison de production, mais surtout de ses archives professionnelles et personnelles. Je pense que la saveur de ce film, le petit bout d'humanité qu'on peut voir à travers un cinéaste comme lui, un personnage comme lui, vient du fait que sa vie, elle est documentée depuis très longtemps et qu'elle est racontable à travers ses films, d'une part, mais aussi à travers tout un certain nombre de documents. Ça a été une aventure assez folle parce que, pour vous dire, avec Stéphane Boutsock, mon co-auteur, on a passé des jours et des jours dans sa maison de production dont les murs sont tapissés de boîtes à chaussures, de cartons, de dossiers qui renferment les archives de ses 51 films. Parce que Claude Lelouch, c'est 60 ans de cinéma. Et ces 60 ans de cinéma, ils sont renfermés dans des boîtes dans lesquelles il y a des disques durs pour les films les plus récents, mais pour les films les plus anciens, vous avez des photos de plateau, des photos de coulisses, des planches contact, on a retrouvé même des bobines de 8 mm et même aussi des bobines de 35 mm qui n'avaient jamais été numérisées. Même Claude ne savait pas ce qu'il y avait sur ces bandes. C'est comme ça qu'on a réussi à mettre la main sur ces tout premiers essais caméra, les tout premiers essais qu'il a tournés pour son premier film. Il ne les avait jamais revus et nous, on a pu les numériser. Franchement, moi, explorer un fonds d'archives aussi important, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on a trouvé dans l'INA, j'ai déroché la totalité des interviews qu'il a pu donner dans sa vie. Donc, on finit par vraiment avoir une connaissance assez aiguisée de son sujet. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir accès à un trésor parce que c'est 60 ans de cinéma, puis c'est quelqu'un qui a compté. C'est quelqu'un dont les films ont été oscarisés, dont les films sont allés au Golden Globe. C'est quelqu'un qui a innové dans son art. Et donc, pouvoir farfouiller dans les coulisses d'une tranche d'histoire comme ça, c'était assez précieux. Et puis, il faut aussi dire une chose, c'est que le véritable cadeau que Claude Lelouch nous ait fait à Stéphane et moi, c'est bon, évidemment d'une part de nous ouvrir ses archives, mais surtout c'est de nous avoir laissé en faire absolument ce qu'on voulait. Le cadeau, il a vraiment été là, c'est-à-dire qu'il nous a il s'est prêté au jeu de l'introspection avec nous, puisque c'est lui le narrateur de cette histoire à partir des longs entretiens qu'on a réalisés avec lui, mais il s'est prêté à ce jeu de l'introspection en nous laissant le raconte, nous, on a pu nous le raconter lui à notre manière, avec notre regard, selon nos règles du jeu. Et il faut quand même mesurer ce que ça peut vouloir dire pour un homme qui a l'habitude d'être celui justement qui décide de la façon dont on raconte l'histoire. Et ça, je dois dire que il a eu l'élégance de nous laisser libre jusqu'au bout. Et en tant que réalisatrice, je lui suis très reconnaissante de ça, parce que quelque part, il mettait un peu sa vie entre nos mains, d'une certaine façon. En tout cas, le récit de sa vie entre nos mains.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi peut-être une attitude qu'il a avec certains acteurs. Il va pas scripter tout, tout n'est pas forcément écrit, il laisse une grande part à l'improvisation. Donc vous dites il contrôle, mais c'est vrai qu'il contrôle jusqu'à un certain point avec certains acteurs. Il a aussi besoin de ce côté humain, de la compréhension d'un script, d'un personnage. Donc peut-être il vous a laissé faire ça aussi dans la lignée de ce qu'il a déjà fait.
Oui, je pense qu'en tout cas, il sait ce que c'est que de fabriquer une histoire et il sait ce que c'est que d'avoir un regard. D'ailleurs... en sortant de la projection de notre documentaire, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit quelqu'un qui sait filmer, c'est un technicien, mais quelqu'un qui a un regard et qui sait comment raconter une histoire, c'est ça la différence avec un metteur en scène. Et on était assez flattés de qu'il nous dise ça parce que oui, on avait à force un regard bien précis sur lui, sur sa trajectoire, sur moi. Moi, je vais vous dire encore plus que son cinéma, ce qui m'a intéressé dans le travail autour de ce documentaire, c'était de m'interroger sur sa trajectoire, sur les ressorts de sa psychologie, de ce qui avait bien pu se nouer pour lui autour du cinéma et autour de ce goût immodéré qu'il a pour raconter des histoires. Claude Lelouch, c'est vraiment un homme qui aura passé sa vie à essayer de gommer la frontière qui existe entre le réel et la fiction. Il n'y a rien qu'il aime plus qu'une bonne histoire. D'ailleurs, c'est ce qu'il amène parfois, il nous le confesse dans notre film, hein, il dit « Ah, parfois, j'en rajoute un peu. J'enjolive un peu la vérité parce que la fiction, c'est mieux que la réalité. » D'ailleurs, c'est pour ça que le film s'appelle « La vie en mieux » parce que pour lui, le cinéma, c'est bien mieux que la vie.
Il est issu de la période de la Nouvelle Vague. Est-ce qu'il y a encore des relents, mais ce n'est pas vraiment le bon mot, des mouvements de cette Nouvelle Vague qui sont encore visibles dans son cinéma aujourd'hui? Quand on prend ses premiers films, je crois que son premier film, c'était un rendez-vous, enfin un de ses premiers en tout cas, son court-métrage, et le dernier finalement, est-ce qu'il y a encore des choses qui sont similaires dans la façon de raconter cette histoire?
Mais alors, c'est complexe cette question de l'appartenance à la Nouvelle Vague, parce que lui ne se réclame pas de la Nouvelle Vague. Et déjà à l'époque...
Je parlais de la période, il était dans la même période.
Alors voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y avait presque un conflit intellectuel et de cinéma entre lui et la Nouvelle Vague, parce que lui, il entendait faire un cinéma grand public. La Nouvelle Vague, peut-être, avait une vision quelque peu... Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais peut-être un peu plus élitiste, un peu plus pointue de ce que devait être le cinéma. Et moi, en discutant avec lui, j'ai senti qu'il y avait eu une sorte de joute un peu cinématographique entre lui et les acteurs de la Nouvelle Vague, avec l'idée de... Parce qu'il y a un truc à comprendre aussi avec Claude Lelouch, c'est qu'il a un rapport... à la critique, c'est-à-dire au monde des critiques de cinéma, des journalistes de cinéma, assez complexe. C'est quelqu'un qui a souffert de la critique, au sens où parfois son cinéma était taxé de candeur, ce qui était lelouchien était vu comme, comment dire, oui, c'était, en fait, les critiques pouvaient avoir une plume très acerbe pour parler de son cinéma, et lui, c'est quelque chose d'abord qui le faisait souffrir, et puis parfois c'est quelque chose qu'il trouvait de mauvaise foi. Il ira même jusqu'à nous dire, de toute façon, comme je n'étais ni de gauche ni de droite, et qu'à l'époque, selon lui, il fallait être de gauche et que toute la critique, les journalistes cinéma étaient de gauche, il fallait être de gauche pour que les critiques soient bonnes. Il a nourri comme ça un rapport complexe avec la façon dont on peut regarder son cinéma. Et ça, c'est un aspect, on sent hein, qu'il y a, il y a une blessure autour de ça, et qu'il y a aussi un entêtement à dire « je m'en fiche, je fais mon cinéma ». De toute façon, Claude Lelouch, il est son propre producteur. Et en ça, il jouit d'une liberté qui est assez conséquente. Donc en fait, ça a été plutôt un trublion, un mec à part, en fait, par rapport à ce mouvement cinématographique.
Si on parle de la future génération ou de la génération courante, est-ce qu'il y a encore des réalisateurs qui peuvent presque lui arriver à la cheville? Alors, c'est très dur de comparer, mais est-ce qu'un Cédric Clapiche est en chemin d'avoir une carrière et une longévité à la Claude Lelouch? Est-ce qu'on sent que c'est encore possible à une ère où aujourd'hui, c'est les plateformes de streaming, on consomme le cinéma complètement différent.
Bah, écoutez, alors, ça dépend sur quoi on compare. Chacun a son style. Clapiche, il a un cinéma qui est bien à lui, qui est aussi un cinéma très générationnel, je trouve. Clapiche, ouais, il sait faire des films qui croquent leur époque. Après, je ne me permettrai pas de vraiment me lancer dans des comparaisons parce que d'abord, je ne suis pas une spécialiste du cinéma. C'était mon co-auteur Stéphane Boutsock qui était le spécialiste de cinéma dans notre tandem. Moi, je sais fabriquer des histoires et des documentaires et c'était ma contribution. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que il est évident que la façon que Claude Lelouch a de produire des films, elle est rare. Claude Lelouch, c'est un cinéaste qui a réussi à être le premier Français à avoir deux Oscars pour Un homme et une femme. Il a eu l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario original. C'était une première. Donc, c'est quelqu'un qui, très tôt dans sa carrière, a eu du succès. Ça lui a apporté de l'argent et ça lui a permis petit à petit de pouvoir produire ses films lui-même. Alors après, de toute façon, il est capable de tout pour pouvoir fabriquer un film. Il peut vendre une maison, c'est vraiment quelqu'un qui, il est dévoré par sa passion du cinéma. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on produit des films en réalité. Vous voyez bien que les productions de films, elles sont beaucoup plus plurielles. Il y a des fonds qui viennent de partout. Du coup, est-ce qu'on peut être aussi libre que lui? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans la même époque ni dans les mêmes objectifs, je pense. Après, s'agissant de Clapiche, c'est sûr que il y a une unité dans l'œuvre de Clapiche qu'on pourrait comparer peut-être à l'unité qu'il y a dans celle de Lelouch.
Vous êtes passionné de films? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre, où tu voudras. Sur la mer, au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change. L'horizon qui se jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi.
Gaëtan Roussel qui chante « Crois-moi ». Plongé dans une archive de 1996, nous avions rencontré Tchéky Cario, l'acteur français décédé en Bretagne il y a 3 semaines, était à l'époque en Australie pour nous parler de sa carrière. Première partie de cette rencontre, la suite est à découvrir dans l'émission de demain.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je parle à Tchéky Cario, à qui je vais demander de se présenter. Pour nous parler un petit peu de son parcours cinématographique, d'acteur, d'homme.
J'ai commencé à faire du théâtre à une période mouvementée, une période de révolte, de frustration, d'énormes désirs. Et le théâtre et l'art de la comédie a été pour moi un exutoire. Un grand ami. Donc j'ai fait de l'économie et j'ai du jour au lendemain à l'âge de 19 ans tout arrêté pour me consacrer à ça. Et c'était une période où on avait un besoin de changement de société, c'était vers la fin des années 60. Donc un paquet de revendications et le théâtre c'était le lieu où on pouvait poser des questions, où on pouvait échanger des émotions et des idées avec les gens à qui on montrait ça. Puis aussi la vie personnelle, l'explosion d'une famille, la mort de gens proches, les premières disparitions, tout ça. Donc tout ça, un paquet de d'émotions qui m'ont poussé à avoir besoin de mettre ça quelque part. Voilà comment j'ai commencé.
Un parcours quand même assez extraordinaire quand on regarde les films que vous avez faits, et surtout celui que vous venez de terminer maintenant, dont vous allez nous parler. Mais vous avez explosé sur l'écran l'année dernière en Australie avec Nostradamus. Mais il y a eu beaucoup de choses avant.
Nostradamus, c'était un caractère qui m'a fasciné. Le challenge pour moi était de rendre crédible la possibilité qu'il ait eu des visions. Bon, parce qu'il est connu pour être un prophète, mais le challenge, c'était de rendre crédible que peut-être il a eu des visions. Mais ce qui était intéressant dans le film, c'était qu'on montrait un humaniste, surtout un médecin qui a soigné la peste, qui a utilisé des plantes pour soigner les gens, qui a été un moteur pour l'économie de sa région. Il a aidé à rendre fertile la terre. Il a essayé de avertir les gens, de mettre en garde les gens de ce qui pourrait se passer dans le futur, dans le sens où je crois pas à toutes les traductions de Century qui sont faites, j'y crois pas. Je pense pas qu'il ait eu des visions, ou peut-être il y a cru, mais je ne crois pas à ça, qu'il ait eu des visions aussi précises. Ce que je crois, c'est que il a pu projeter dans le futur une révolution en France, étant extrêmement pointu sur ce qui se passait. À son époque, c'était un homme très cultivé aussi, donc il pouvait projeter une révolution. Il pouvait imaginer un génocide aussi important que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et vivant lui-même un génocide, ce qui était l'Inquisition. Voilà.
Mais vous avez donné quand même des dimensions différentes au personnage, comme vous avez dit, la partie humaniste de l'homme, le fait aussi qu'il était un précurseur en médecine, et que son rôle aussi avec Catherine de Médicis.
C'est l'histoire. Je sais pas trop comment en parler, parce que ça, bon, je connais ses rapports avec elle à travers, disons, les prophéties qu'il a faites à propos de cette bataille en Henry II. Voilà le truc dans l'œil, et puis aussi les enfants, Margot, le sang, tout ça. Bon, je pense qu'elle s'est Elle se servait de ses projections pour essayer de garder le pouvoir, et pas se faire manger par toutes les guerres intestines qu'il y avait à la cour à ce moment-là.
Mais elle était aussi une des victimes de ses prophéties, parce que finalement, pour elle, la famille était la chose la plus importante, et il lui prédisait finalement la fin de la lignée.
Ouais.
Martin Guerre.
Martin Guerre, c'était le premier film. J'avais fait 15 ans de théâtre avant de commencer à faire du cinéma. Et j'étais complètement investi de cette mission au théâtre, d'acteur et de porte-parole. C'est comme ça qu'on se projetait avec nos amis.
Théâtre politique
assez engagé, assez conscient de ce qui se passe dans le monde. Mais aussi une volonté farouche de s'amuser quand même. On n'était pas. Mais quand même, le cinéma, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait un ciel au-dessus de nous et qu'on pouvait jouer la comédie en dehors du théâtre. Qu'on pouvait être léger. Et...
D'autres films qui vous ont marqué, particulièrement avant de passer à celui que vous venez de terminer?
Bon, il y a un film qu'on a appelé ici, je crois, The Knife, que j'ai fait au Brésil. J'ai aimé me retrouver dans ce pays, découvrir ce pays et puis être. Dans un film intelligent et qui soit en même temps un film d'action. J'aimais le silence de mon caractère, son ambiguïté, son mystère. Puis aussi mettre au point toutes ces chorégraphies avec les bagarres au couteau. Et bon, ce film, ça c'était un film. Nikita aussi, c'était un film important. Un peu pour les mêmes raisons. Voilà, bon, je sais pas, toutes les nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer, l'amour braque de Andrzej Zulawski. C'est tous des films en référence en quelque sorte et qui font partie de cette volonté d'être aussi éclectique dans le choix des rôles, jouer des rôles très différents.
On n'arrive pas à vous catégorier.
Non, c'est pas, non. J'ai pas envie parce que un de mes objectifs comme acteur, c'est de créer constamment de la surprise pour moi-même et pour les gens.
On vous demande pour la préférence, disons, théâtre-cinéma. Pour certains acteurs de théâtre, la transition au cinéma et le morcellement du temps et toute la production elle-même du cinéma est quelque chose qui fait souffrir les acteurs de théâtre qui aiment être en contrôle de leur rôle du début jusqu'à la fin et dans un temps qu'ils contrôlent aussi. Le cinéma, c'est bien souvent hors de chronologie, c'est le metteur en scène finalement qui dirige tout. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a... vous considérez deux choses tout à fait différemment ou est-ce que non, le cinéma peut être tout aussi fascinant et tout aussi prenant que le théâtre?
Oui, il peut être aussi fascinant, aussi prenant. Surtout parce que j'ai la chance d'interpréter des premiers rôles, des rôles qui me donnent la possibilité de m'exprimer vraiment, donc d'être une partie énorme du film. C'est vrai qu'on contrôle moins qu'au théâtre, que c'est entre les mains du montage, de la réinterprétation, on peut carrément changer l'histoire aussi, on peut faire ce qu'on veut. Mais quand même, je suis de plus en plus impliqué au début des projets et à la fin des projets. Le background théâtre me donne les moyens d'être et puis d'être aussi interlocuteur avec le metteur en scène, parce qu'on a une plus grande conscience quand on a fait du théâtre, je crois, du processus de création, parce qu'on y est beaucoup plus impliqué au théâtre au départ, puisqu'on a ces 2 mois de répétition, donc on a l'occasion de suivre toute la préparation musicale, décor, lumière, etc., costume. Non, j'ai pas fait de théâtre depuis longtemps, ça commence à me manquer. Comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai envie d'être un peu plus installé, donc j'ai envie d'être plus à Paris, et donc je vais sûrement faire plus de théâtre prochainement.
Paris, c'est le pied à terre ?
Ouais, pendant un moment c'était Los Angeles, parce que j'avais envie de découvrir ce qui se passait là-bas. Je voulais comprendre un peu l'industrie américaine, un peu plus au fait de ce qui se passe à l'extérieur. Donc mieux m'exporter et mieux revenir, j'espère. En France, je veux dire.
The Small Man, c'est en Australie.
Ben, The Small Man, il fait partie de cette catégorie de personnages que j'ai joué. C'est des personnages assez extrêmes et pris dans un moment de leur vie, un moment de crise dans leur vie. C'est un personnage qui est coincé par sa jalousie, son obsessivité. Ouais, en huis clos, dans la nature, c'est ça qui est surprenant, en Nouvelle-Guinée, au milieu de la jungle. Un homme qui essaye de comprendre pourquoi il n'arrive pas à vivre avec... Enfin, plutôt non, il n'essaye pas de comprendre, il n'est pas conscient en réalité. Il est incapable de donner de l'espace à une femme, il ne sait pas partager la vie avec quelqu'un, parce qu'il est... il est pris dans ces contradictions dont je vous parlais tout à l'heure.
Est-ce que ça vous a donné un aperçu sur le cinéma australien ou sur la façon de travailler? Est-ce qu'il y a une façon différente de travailler en Australie qu'il y a ailleurs, parce que vous êtes international?
Disons que ce qui est intéressant en Australie, c'est que c'est une industrie qui est en train de grandir. Dernièrement, ils ont eu des cinéastes vraiment intéressants et qui sont arrivés, qui ont eu du succès, avec des films singuliers. Pas des productions Ghostbusters, Big Hit et tout ça. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, c'était des gens extrêmement engagés, passionnés, qui considèrent vraiment le cinéma comme un art et pas seulement comme un moyen de gagner de l'argent. Évidemment, ils veulent avoir du succès et communiquer, et arriver chez les gens, mais ils gardent une authenticité. Et c'est à tous les postes, quoi.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très bon samedi après-midi. Et si vous voulez retrouver cette émission ou certaines chroniques, rendez-vous directement sur notre site internet sbs.com.au/french. Bonne journée, à demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.